Et cette écoute, elle va se poursuivre avec le journal de Benoît Bouscarel, n'est-ce pas ? Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La propagation du coronavirus met une partie de l'Italie à l'arrêt. Tout le nord du pays est en quarantaine jusqu'au 3 avril pour tenter d'éviter un crash du système sanitaire. On retrouve dans un instant notre correspondant permanent à Rome, Bruce de Galzin.
Et puis en France, Olivier Véran l'a annoncé hier, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Un nouveau foyer de contamination a été identifié à Ajaccio. 300 000 élèves n'iront pas à l'école, au collège ou au lycée ce matin.
Le dernier pointage en France fait état de 1126 contaminations et de 19 décès. Nous nous intéresserons aux conséquences économiques de cette crise du coronavirus à l'échelle globale et nationale, alors qu'une réunion doit avoir lieu ce matin à Bercy autour de Bruno Le Maire. Également dans ce journal, la campagne pour les élections municipales qui continue. Ce soir, Nicolas Sarkozy va soutenir Rachida Dati à Paris. Analyse de Stéphane Robert.
Et puis la Convention citoyenne pour le climat a achevé ses travaux ce week-end. Elle les présentera en détail après un vote final lors de sa dernière session. Ça sera début avril.
Reportage à suivre là-dessus de Célia Kiré qui a suivi les débats pour nous. À 7h12, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, crime contre l'humanité, pourquoi la CPI ouvre-t-elle une enquête en Afghanistan ? On posera la question à Joël Ubrecht. Il est responsable du programme Justice pénale internationale à l'Institut des hautes études sur la justice.
À tout à l'heure, Guillaume. 15 millions d'habitants, peut-être 16 millions, en quarantaine. En Italie, le poumon économique du nord du pays est à l'arrêt en ce début de semaine. Hier ont été annoncées des mesures drastiques pour tenter de faire face à la progression très rapide du coronavirus. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant permanent à Rome avec plus de 7000 cas de contamination confirmés. L'Italie est désormais le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde après la Chine. Dans la nouvelle zone rouge dessinée hier par les autorités, la circulation des personnes est désormais limitée. L'économie à Milan, le tourisme à Venise seront impactés dans le mois à venir, tandis que le système sanitaire italien est au bord de l'explosion.
Ah oui, et c'est donc pour éviter que le virus se propage davantage que les Italiens du Nord ne doivent plus se déplacer, que tous les Italiens doivent garder une distance de sécurité d'un mètre. Les autorités sont même en train d'acheter 22 millions de masques et pour les cas les plus graves, des respirateurs artificiels sont aussi commandés. Angelo Borelli est le chef de la protection civile qui gère cette situation d'urgence.
Une entreprise nationale nous fournira des respirateurs. Nous en avons déjà 320 pour les régions Émilie-Romagne, Lombardie et Piémont. Cette entreprise pourra aussi nous fournir 2000 respirateurs que les autres régions nous ont demandés.
Les régions du Sud, surtout, qui n'ont pas la capacité de soigner les cas les plus graves et qui aujourd'hui ne sont plus épargnées, explique Silvio Brusaferro, le président de l'Institut supérieur de la Santé.
Il n'y a pas une seule partie de l'Italie qui soit complètement immunisée. Dans certains endroits, le virus circule moins, mais le virus se propage en fonction de notre comportement. Et si nous continuons à nous comporter comme si de rien n'était, que l'on soit à Milan ou dans une autre ville du centre ou du sud de l'Italie, le virus se propagera.
Et les présidents des régions du sud du pays implorent leurs concitoyens qui reviennent du nord de se mettre immédiatement en quarantaine, même s'ils n'ont pas de symptômes. Ici en Italie, plus personne ne se risque à faire des prévisions sur la durée de cette épidémie.
Merci Bruce de Galzin. En direct de Rome pour France Culture, la question désormais est de savoir quelles conséquences économiques aura cette crise du coronavirus alors que les bourses asiatiques chutent une nouvelle fois ce matin à l'ouverture. En France, une réunion est prévue à Bercy ce matin à partir de 10h autour de Bruno Le Maire, d'une partie du gouvernement et d'acteurs économiques. Delphine Simon.
L'impact du coronavirus sera plus significatif que prévu. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne s'en est pas caché. Au premier trimestre, l'impact va se concentrer sur le transport aérien, le tourisme, l'électronique ou l'hôtellerie, des secteurs qui ont anticipé l'onde de choc venue de Chine. Les entreprises risquent aussi d'être prises en tenaille par un double choc. D'un côté, une pénurie de pièces détachées venue de Chine, ce qui va peser sur leur chaîne de production quand les stocks seront épuisés. De l'autre côté, un choc de la demande, explique l'économiste Christian de Boissieu.
Quand vous avez des approvisionnements qui s'arrêtent parce que les produits venaient de Chine et ils peuvent plus venir de Chine, bah ça pèse sur l'offre, ça pèse sur la production. Et vous avez dans le même temps un choc sur la demande parce que les gens restent chez eux, ils consomment moins, ils vont épargner plus. Et donc, vous allez avoir les deux jambes qui vont fonctionner malheureusement dans la mauvaise direction. On n'est même pas au milieu du film, nous sommes dans le film.
Au mieux, les pertes vont s'étaler sur tout le semestre et contaminer une croissance déjà chancelante. Si techniquement la France entre en récession, le tout est d'en sortir. Tout dépendra de la durée et de la force de l'épidémie. Car le risque d'embolie pourrait d'ailleurs se propager à la zone euro. L'Allemagne et l'Italie, plus exposées, sont déjà quasi à l'arrêt.
Delphine, Simon, en France, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'élève toujours à 19 morts et à 1126 cas de contamination. Le bilan établi hier dans l'après-midi. En raison des mesures de précaution prises au titre du stade 2 de la crise, 300 000 élèves sont privés d'école aujourd'hui et pour les deux prochaines semaines dans le Haut-Rhin et l'Oise et encore à Ajaccio, en Corse du Sud. Ajaccio où un troisième cluster ou groupe de cas de contamination a été identifié hier, mais les élèves ne seront pas laissés à eux-mêmes. Écoutez la rectrice de l'Académie de Corse, Julie Benetti.
C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une cellule académique de continuité des apprentissages, en particulier à l'environnement numérique de travail régional qui est commun à tous nos établissements du second degré, mais également en mobilisant la plateforme d'enseignement à distance du CNED avec un dispositif de classe virtuelle que l'on appelle la classe à la maison qui permet de couvrir l'ensemble des enseignements depuis la grande section de maternelle jusqu'à la terminale. Nous allons évidemment solliciter et mobiliser nos enseignants, ce seront les directeurs d'école et chefs d'établissement qui vont réunir leurs équipes de façon à ce que leurs équipes puissent assurer ce lien pédagogique avec les élèves, mais nous allons les accompagner de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture pédagogique pour les 14 jours à venir pour l'ensemble des élèves qui sont concernés par cette mesure de fermeture des écoles et établissements scolaires.
7h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Benoît Bouscarel. La campagne des municipales n'est pour l'instant pas entravée par la crise du coronavirus.
Oui, le premier tour est toujours prévu dimanche, le deuxième tour dimanche suivant. Et voilà. À Paris, Rachida Dati recevra ce soir le soutien de Nicolas Sarkozy qui se rendra à son meeting, salle Gaveau, dans le 8e arrondissement, et qui pour la première fois aujourd'hui s'affichera donc politiquement en opposition à Emmanuel Macron. L'analyse de Stéphane Robert.
Il est naturel de voir Nicolas Sarkozy venir afficher son soutien à Rachida Dati, explique un de ses amis. Il a une affection toute particulière pour son ancienne ministre. Et puis, il a une autre bonne raison de se rendre à ce meeting, poursuit ce proche. À l'approche des élections municipales, il lui fallait opérer un rééquilibrage en direction de sa famille politique pour compenser les marques d'affection qu'il a eues depuis 2 ans en direction d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, selon cet ami, a inventé un nouveau métier, celui d'ex-président loyal envers la République. Il assiste aux cérémonies, il dîne avec l'actuel chef de l'État, il représente à l'occasion la France à l'étranger. Mais quand on entre en campagne électorale, quand le besoin s'en fait sentir, il est obligé de revenir auprès de sa famille, conclut ce proche. C'est quand même le dernier grand chef qu'on a eu à droite. Depuis le début de l'année, il a déjà fait 2 apparitions publiques à travers lesquelles il a donné des gages à droite. La première, c'était le 20 janvier, lors des vœux de Guillaume Pelletier, numéro 2 de Les Républicains, dans le Loir-et-Cher. Ensuite, il y a 2 semaines, il est allé déjeuner au siège de son ancien parti avec le nouveau président Christian Jacob. Ce soir, il s'affichera donc pour la 3e fois comme la figure tutélaire de la droite républicaine et il ira au meeting de Rachida Dati en compagnie de François Baroin, celui dont on dit qu'il pourrait incarner la relève. Nicolas Sarkozy a décidé une nouvelle fois d'envoyer des cartes postales, mais cette fois, ce ne serait pas nécessairement pour nous annoncer son retour.
Stéphane Robert. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en France dans un souci de justice sociale? C'est la question que se posent les citoyens de la Convention Climat depuis désormais 6 mois. Ce week-end, ils ont finalisé leurs propositions au Conseil économique, social et environnemental. Le vote final des mesures qu'ils ont retenues est prévu au 3 avril et c'est désormais l'heure du premier bilan avec Célia Quigré.
Tous les citoyens ont réussi à rendre leur copie à temps. Pour le moment, ils doivent rester discrets. Les mesures ne sont pas toutes consensuelles, mais Annie dresse un bilan déjà très positif.
On a des mesures très fortes. Regardez-nous, on a développé par exemple le recyclage de déchets. Ça correspond à 3% aujourd'hui de nos émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde est d'accord par rapport au plastique, par rapport à la gestion des déchets. Quand on arrive sur réduire la vitesse, par exemple, passer de 130 à 110, c'est une notion populaire ou impopulaire, mais qui a un réel impact sur les GES.
GES entend des gaz à effet de serre. Ces citoyens sont désormais des experts. Mais Samir a quelques réserves. Il aurait souhaité que le coût et l'efficacité des mesures puissent être précisés.
Diminuer la vitesse sur les autoroutes, c'est une bonne intention. Est-ce que ce sera vraiment efficace pour les gaz à effet de serre? Voilà. Moi, je serais plus pour brider, par exemple, les voitures. Je pense qu'on n'a pas assez évalué, justement, le financement de nos projets et de nos actions.
Et si le financement est flou, cette convention est tout de même une réussite pour le climatologue Jean Jouzel, membre du comité de gouvernance.
Les citoyens ont abordé collectivement des aspects de notre vie de tous les jours. Ce n'est pas hors sol, les discussions sont concrètes par rapport à ce que moi j'en attendais, et bien l'objectif est atteint.
Les citoyens ont jusqu'au 3 avril pour amender leurs propositions. Leur cahier de doléances sera ensuite transmis aux parlementaires.
Reportage de Célia Kiré. Le président turc Recep Tayyip Erdogan sera cet après-midi à Bruxelles. Il doit rencontrer les responsables de l'Union européenne et notamment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Ankara tente toujours d'obtenir le soutien de l'Europe dans son conflit avec la Syrie.
7h11 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel. En Afghanistan, la trêve n'aura pas duré. Quelques jours à peine après la signature de l'accord entre les États-Unis et les talibans, le pays a replongé dans le tumulte.
Oui, après l'attentat qui a fait au moins 29 morts à Kaboul vendredi, doit avoir lieu aujourd'hui la cérémonie d'investiture du président Ashraf Ghani pour un nouveau mandat. Claude Guibal.
Un pays à nouveau taché de sang et à l'avenir plus que jamais incertain. L'Afghanistan, dont Ashraf Ghani s'apprend à prendre à nouveau les rênes, est un défi vertigineux pour le président tout juste réélu. Une réélection de façade, sans réelle légitimité pour celui que l'on considère comme la marionnette de Washington. Sa victoire, évidemment, est rejetée par les talibans, mais aussi par les autres participations à l'élection qui menacent de constituer un gouvernement parallèle. L'opposition lui reproche d'être un jouet entre les mains des Américains qui n'ont même pas chercher à sauver les apparences en le maintenant à l'écart des discussions de paix avec les talibans. Difficile de croire dans ces conditions à la réussite d'un processus de paix dans lequel le gouvernement afghan est lui-même exclu. Alors pour peser face aux talibans, Ashraf Ghani n'a qu'une solution, créer une dynamique d'union nationale. Mais là, les divisions légendaires entre les factions afghanes, les seigneurs de la guerre sont telles qu'elles semblent impossibles. De quoi paver la route aux talibans qui le savent pertinemment. Et ce sont ainsi eux qui ont la main sur le futur de ce pays dont la population ne veut plus qu'une seule chose, la fin des attentats, au risque de redonner aux talibans les clés du pays pour que tout s'arrête.
Claude Guibal. Un temps humide et souvent perturbé aujourd'hui, du vent et quelques rares éclaircies, voilà pour les prévisions météo. Les températures minimales sont en baisse, entre 3 et 6 degrés maximales jusqu'à 14 degrés.